Le journal de la rédaction avec vous, Benoît Bouscarel, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Au Venezuela, l'aide humanitaire américaine n'entre toujours pas. Elle reste bloquée à la frontière par les forces armées du régime en place. Reportage à suivre de Benjamin Illy à la frontière colombienne. Aujourd'hui, les 14 pays du groupe de Lima vont se réunir pour tenter d'accroître encore un peu plus la pression sur Nicolas Maduro. Juan Guaido sera là. Mike Pence, le vice-président américain, aussi.
Et puis que faire des djihadistes français partis combattre en Irak et en Syrie où l'organisation de l'État islamique s'effondre ces jours-ci? Cette question sera bien sûr au menu des discussions entre Emmanuel Macron et son homologue irakien, Behram Saleh, en visite en France à partir d'aujourd'hui. Hier soir, on apprenait que les forces démocratiques syriennes ont remis jeudi à l'Irak plus de 20 djihadistes, parmi lesquels 14 Français.
En Algérie, toujours aucun mouvement du pouvoir après un week-end de manifestations. Hier encore, 1500 personnes ont défilé dans les rues d'Alger contre la perspective d'un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Correspondance à suivre de Leïla Berato. À 7h15, après ce journal, Florian, la question du jour.
Et Pôle emploi, quelle efficacité 10 ans après la fusion à NPE à CEDIC, on en parlera avec Jean-Marie Pillon.
À tout à l'heure. Au Venezuela, journée aux actions plus diplomatiques aujourd'hui après un week-end de fortes tensions, notamment aux frontières brésiliennes et colombiennes. L'opposant Juan Guaido, président autoproclamé opposé à Nicolas Maduro, sera ce lundi à Bogota pour participer à une réunion du groupe de Lima. Il s'agira d'essayer d'obtenir toujours plus de soutien de la communauté internationale alors que, autour de la table, le vice-président américain Mike Pence évoquera sans aucun doute des modes opératoires plus directs. Pendant ce temps, les camions d'aide humanitaire envoyés par les États-Unis sont toujours bloqués à la frontière. Certains ont été incendiés. Reportage à Cúcuta, ville frontalière de Colombie, Benjamin Illy.
On est avec vous. C'est le président colombien Iván Duque. Il est là sur le pont frontalier pour constater les dégâts. Ces camions de l'aide humanitaire encore fumant. Il est venu aussi saluer les Vénézuéliens au lendemain du combat. Vous allez retrouver la liberté et le monde est à vos côtés. Quelle douleur, confie Iván Duque. Vous avez vu comment la dictature a brûlé la nourriture et les médicaments qui devaient permettre d'aider les gens. C'est de la barbarie. La dictature a scellé sa défaite morale et diplomatique. Hier, le pont Francisco de Paula Santander a connu des sursauts de violence, mais rien à voir avec la journée de samedi et ses blessés par centaines. Un colonel de la police nationale colombienne fait le bilan. Nous avons secouru plus de 220 personnes ici, explique-t-il, et plus de 120 personnes au pont Simón Bolívar. Nous avons deux blessés par balle.
Les forces armées vénézuéliennes ont tiré à balles réelles.
Ce que je peux dire, c'est que deux citoyens vénézuéliens ont été blessés par des balles venant d'armes à feu.
Alors juste en dessous du pont qui mène à Ureña, au Venezuela, il y a ces sentiers illégaux par lesquels passent les Vénézuéliens qui n'ont pas de papier pour aller en Colombie.
Venezolanos?
Il y a un groupe de Vénézuéliens, justement.
Santiago.
Santiago, 27 ans, raconte qu'il était de l'autre côté de la frontière samedi. Il dit que ce n'était pas beau à voir. Beaucoup de bombes de gaz lacrymogène. Les collectivos sont arrivés. Ils ont déclaré le couvre-feu. Ils ont demandé qu'on reste chez nous. Nous, on ne veut pas de ça. Nous voulons un pays libre, démocratique.
¿Puedes hablar de los colectivos?
Non, je ne peux pas parler des collectivos. C'est un groupe armé, c'est un gang, en lien avec le gouvernement. Je ne peux pas donner plus de détails.
En nous parlant, vous avez peur pour votre famille de l'autre côté de la frontière?
Claro, claro.
C'est quoi le risque?
¿Cuál es el riesgo? La muerte.
La mort. C'est ça le risque si nous parlons.
La mission de nosotros es a pasar esos camiones.
Mais notre mission, c'est de faire passer ces camions de l'aide humanitaire. Coûte que coûte, ces camions passeront.
Venezuela, estamos contigo.
Le Venezuela, on est avec toi, dit son ami en fauteuil roulant.
Gracias. Adiós. Hasta luego.
Benjamin Illy. À Cuba, en attendant la journée, les résultats du référendum qui s'est tenu hier sur la nouvelle constitution du pays. Un texte qui reconnaît tout à la fois l'ouverture internationale, le marché, la propriété privée et le socialisme, tendance fidèle. D'où l'utilisation de la campagne référendaire par les autorités cubaines ces dernières semaines pour soutenir le Venezuela de Nicolas Maduro.
Et puis le président irakien, Benoît Bouscarel, Behram Saleh, qui entame aujourd'hui une visite officielle de deux jours à Paris, l'occasion de faire le point avec Emmanuel Macron sur la lutte contre Daesh.
Et il sera question aussi, bien sûr, entre les deux hommes du sort des djihadistes français qui viennent d'être capturés en Syrie ou qui sont détenus à Bagdad. Hier soir, on apprenait que jeudi, 14 djihadistes français avaient été remis par les forces kurdes aux autorités irakiennes. La pression continue à monter sur les capitales européennes et sur Paris pour l'organisation du rapatriement des ressortissants européens. Christian Chéneau.
Que faire des djihadistes français capturés en Syrie et en Irak? Ce dossier sensible sera un sujet de choix au menu de la rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue irakien, Bahram Saleh. Une question embarrassante pour Paris qui n'est pas pressé de voir rentrer au pays des combattants aguerris. Pour ceux qui ont été arrêtés en Irak, c'est la justice de Bagdad qui les jugera. Mais il y a aussi le sort de ceux qui ont été faits prisonniers en Syrie par les forces arabo-kurdes lors des combats contre les dernières poches de Daesh dans l'est du pays à la frontière avec l'Irak. En octobre dernier, Human Rights Watch révélait que les États-Unis avaient transféré certains combattants étrangers interceptés sur le territoire syrien aux autorités de Bagdad. Et parmi eux, l'ONG avait documenté le cas d'un Français, Larsen Amar Gebouj. Ce djihadiste avait déclaré lors de son procès qu'il avait été capturé dans le nord de la Syrie et qu'il n'avait jamais mis les pieds en Irak auparavant. D'autres combattants français auraient aussi été transférés de la Syrie vers l'Irak dans la plus grande discrétion.
La reprise ce matin à Bruxelles du procès Nemouche pour assassinat terroriste. Accusé de l'attaque commise au musée juif de Bruxelles en 2014, le Français de 33 ans sera aujourd'hui confronté à ses accusateurs. Et Mehdi Nemouche encourt la réclusion à perpétuité, verdict attendu début mars.
7h06, la suite du journal avec vous Benoît Bouscarel. Et si le Brexit était finalement décalé de 2 ans pour n'être effectif qu'en 2021?
En l'absence d'accord à Westminster et pour éviter un Brexit dur, c'est ce délai supplémentaire, ce que pensent pouvoir proposer certains dirigeants européens d'après le Guardian dans son édition du jour. Au lendemain d'une nouvelle annonce de Theresa May, la première ministre britannique, qui s'est donné une semaine de répit avant de remettre au vote son accord avec l'Europe. Ce sera, dit-elle, avant le 12 mars. La première ministre britannique vivement critiquée depuis cette annonce hier. Quoi qu'il en soit, la date pour l'instant prévue du Brexit, le 29 mars, approche. Et parmi les premiers concernés, parmi ceux qui ne peuvent que s'inquiéter de la tournure que prennent les événements, les pêcheurs de la Manche. Toute la filière pêche est déstabilisée par l'incertitude qui plane dans la région. Benoît Martin.
Effectivement, on en reste pour l'heure au constat et il est inquiétant. En cas de Brexit sans accord entre l'Europe et la Grande-Bretagne, ce qui semble se dessiner, fini les eaux communautaires dans la Manche où tous les pêcheurs peuvent travailler. À la place, une mer coupée en deux, dont la moitié nord serait interdite aux pêcheurs européens, donc manchois. Ces derniers perdraient 50% de leur zone de pêche. À l'arrivée, une plus grande concentration de bateaux sur une zone plus réduite. Mauvais à la fois pour les prises et pour la préservation des ressources. D'après une étude du comité régional de pêche de Normandie, 60 navires seraient impactés, principalement des bateaux hauturiers comme on en voit dans les ports de Cherbourg, Barfleur, Saint-Valahougue ou Granville. L'État envisage qu'il cesse temporairement de pêcher moyennant des indemnisations financières, une solution très critiquée au comité car ça voudrait dire moins de poissons ramenés dans les criers, donc des menaces sur les activités de mariage, de transformation ou encore de transport.
Benoît Martin de France Bleu Cotentin, on revient sur la question du Brexit tout à l'heure à 7h35 dans la revue de presse internationale de Camille Manier. En Moldavie, des élections étaient organisées hier, élections législatives. Le parti socialiste pro-russe est arrivé en tête du scrutin d'après les premiers résultats qui viennent de nous parvenir. En Algérie, les manifestations se succèdent pour demander un renouvellement de la classe politique. Hier encore à Alger, 1500 personnes se sont réunies en bravant les interdictions pour protester contre l'annonce de la candidature prochaine du président Bouteflika à un 5e mandat. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. 48 heures après de premières très importantes manifestations vendredi dans tout le pays, ce qui n'a pas fait bouger ni le gouvernement ni la presse officielle. Depuis Alger, la correspondance de Leïla Berato.
Alors que des partis d'opposition appellent au départ du gouvernement, les autorités, elles, n'ont fait aucun commentaire sur les manifestations qui durent depuis 3 jours. Dans les médias officiels, silence radio. Ce dimanche, la présidence a envoyé un communiqué à l'occasion de l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, sans faire mention des manifestations. Des membres du gouvernement et de l'équipe de campagne du président Bouteflika organisaient pourtant une réunion publique dans le sud du pays, mais pas un mot non plus. Pourtant, l'ampleur des manifestations de vendredi est historique, le fait qu'elles se soient poursuivies ce dimanche à Alger aussi. La pression ne va pas se relâcher puisque d'autres appels à manifester ont été lancés pour cette semaine. Et si les autorités acceptaient de présenter un autre candidat, il ne leur reste que jusqu'à dimanche pour le choisir et déposer un dossier avec des milliers de parrainages auprès du Conseil constitutionnel. Les manifestants le disent eux-mêmes, il faut que les autorités réagissent. Prochaine étape ce lundi, le Premier ministre est attendu face au Parlement pour présenter la déclaration de politique générale du gouvernement ainsi qu'un bilan des projets menés par Abdelaziz Bouteflika. pendant les 20 dernières années.
Leïla Berato à Alger pour France Culture. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall a revendiqué cette nuit sa victoire au premier tour dans l'élection présidentielle qui s'est tenue hier, ce que contestent vivement ses principaux opposants. On y revient à 7h30.
Et puis après 4 jours d'un sommet inédit sur les abus sexuels perpétrés dans l'Église, le pape François s'est exprimé hier sur les multiples scandales qui secouent le Vatican depuis quelques années.
Où le pape a convoqué la figure de Satan pour qualifier les agissements des prêtres coupables d'abus sexuels et de pédophilie. Beaucoup de victimes et d'associations de victimes ont critiqué le manque de mesures concrètes contenues dans le discours du pape. Des accusations que nuance Olivier Savignac, le fondateur de l'association de victimes. Notre parole enfin libérée, il répond à David Ravier.
Je crois d'une part la condamnation ferme des agresseurs, des prédateurs qui officient en tant que pasteurs. Elle est établie. Il recourt à l'image de la main du diable, en fait, d'un instrument de Satan, lorsqu'il parle de ces personnes-là. Et je crois qu'il n'a pas tort. C'est une image très forte, parce que sur le plan de la morale chrétienne, de l'éthique chrétienne, c'est la pire image qu'on puisse vraiment trouver. Il parle aussi, ça c'est très intéressant, il redit en substance ce qu'il avait écrit dans la lettre au peuple de Dieu le 20 août 2018. L'abus sexuel n'est pas seul. Il y a aussi abus de conscience, abus de pouvoir, d'autorité et abus spirituel. Et ça, cette dimension, elle est très importante et elle qualifie vraiment la gravité des actes perpétrés dans l'Église. Trop souvent, des prélats, des prêtres se sont sentis au-dessus parce que, étant les directeurs de conscience, les garants de la morale. Je crois qu'à un moment donné, et ce à quoi appelle le pape, c'est surtout de se retrouver au niveau du peuple, au niveau des attentes aussi des victimes, avec une réelle écoute. Parce que ce n'est pas perdre du temps que d'écouter les victimes, mais c'est un processus important qui vise à la guérison des plaies des victimes, mais la guérison de l'Église tout entière, qui doit maintenant pouvoir se reconstruire.
En France, ce sondage publié ce matin par nos confrères de France Inter qui montre qu'une majorité de Français souhaite désormais l'arrêt du mouvement des Gilets jaunes à 55% d'après cette enquête Odoxa Dentsu Consulting. Un temps sec et ensoleillé encore aujourd'hui, ce qui, en plus du vent qui soufflera en Corse, n'aidera pas à lutter contre les incendies qui ont déjà ravagé plus de 1400 hectares de forêt sur l'île de Beauté. Les températures seront encore très élevées pour la saison, de 13 à 17 degrés au nord de la Loire jusqu'à 21 degrés au sud. Les matins de France Culture, c'est avec Florian Delorme aujourd'hui.
Merci Benoît Bouscarel, on vous retrouve à 7h30.
Ouais.